Le journal Loïc Barrière. Déjà 2,5 millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine. Alors que les combats continuent, Vladimir Poutine appelle des combattants étrangers à venir soutenir l'armée russe en Ukraine. Deux membres présumés du Hezbollah jugés coupables hier en appel par le tribunal spécial pour le Liban pour l'assassinat de Rafik Hariri en février 2005. Réaction dans ce journal de l'ancien ministre libanais Marwan Hamadeh. Salah Hamouri condamné à 4 mois de prison par la justice militaire israélienne. Une décision inadmissible pour Patrick Leyarik, éditorialiste à l'Humanité. Il dénonce un acharnement contre l'avocat franco-palestinien. Le 10e anniversaire des attentats de Toulouse, le 11 mars 2012, Mohamed Merah assassinait sa première victime, le soldat Imad Ibn Ziyaten. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris interpelle les candidats à l'élection présidentielle. Dans un livre, n'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République. Les musulmans sont des citoyens à part entière, affirme Shems Eddin Hafiz. Enfin, Olivier Véran annonce un rebond de l'épidémie de Covid-19 à 3 jours de l'assouplissement des mesures sanitaires. 2 semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la barre des 2,5 millions de réfugiés a été dépassée. C'est ce qu'a indiqué le Haut Commissariat aux réfugiés. À elle seule, la Pologne accueille plus de la moitié des réfugiés ukrainiens. Autres pays d'accueil, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie et la Slovaquie. Selon la France, les 150 000 soldats russes qui étaient massés devant l'Ukraine ont franchi la frontière. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine appelle les volontaires à combattre contre l'Ukraine. Des combattants syriens, notamment, seraient en train d'aider l'armée russe. Acquittés lors d'un précédent procès, 2 membres présumés du Hezbollah ont été jugés coupables en appel de l'assassinat de Rafik Hariri en février 2005. Une décision annoncée par le tribunal spécial pour le Liban, une nouvelle dont se réjouit l'ancien ministre libanais Marwan Hamadeh à quelques jours de l'anniversaire du 14 mars 2005. On l'écoute.
Le tribunal international pour le Liban vient comme si c'était pour la veille du 14 mars et comme une fleur offerte à ce mouvement, de condamner les 2 comparses du Hezbollah qui avaient assisté M. Salim Ayash, le chef responsable des attentats dans le parti pro-iranien, qu'il avait assisté dans la préparation et l'exécution des crimes. Ce verdict rendu aujourd'hui par le tribunal international pour le Liban et précisément par la cour d'appel, donc sans aucun recours ultérieur possible, vient donner une nouvelle impulsion au mouvement souverainiste libanais à la veille d'élections où les Libanais, dans la mesure du possible et autant que faire se peut sous l'égide des armes qui occupent le pays, doivent se prononcer pour un sursaut de liberté et de démocratie.
L'annulation de ces acquittements, c'est une source d'espoir pour le Liban ?
C'est certainement un retour aux sources d'espoir, c'est-à-dire que la justice internationale, à un moment où dans le monde entier, elle est plus ou moins bafouée ou violée, la justice internationale vient de pointer du doigt les véritables auteurs de ce déclin et de cette chute aux enfers, cette descente aux enfers que le Liban connaît depuis des années.
Marwan Hamadeh, l'ancien ministre libanais, répondait à François-Xavier de Calonne. Salah Hamouri, condamné à 4 mois de détention administrative par la justice militaire israélienne. Selon l'acte d'accusation, l'avocat franco-palestinien est considéré comme une menace pour la sécurité de la région. À la mi-octobre, Israël avait retiré à Salah Hamouri son statut de résident permanent à Jérusalem. Je vous propose d'écouter la réaction de Patrick Lejarik, ancien député européen et éditorialiste à l'Humanité.
C'est totalement inadmissible, cet acharnement contre Salah Hamouri, qui est désormais devenu personne de la justice. Il est avocat pour une association des droits humains, et c'est à ce titre-là qu'on le persécute en permanence. En vérité, on veut le faire quitter la Palestine.
Vous êtes surpris qu'il n'y ait pas véritablement de motif à cette incarcération? On parle de menace pour la sécurité.
Oui, il n'y a strictement aucune menace pour la sécurité. C'est toujours les excuses que trouvent le gouvernement israélien et les militaires israéliens, comme les services de sécurité israéliens. Mais il y a évidemment, chacun le sait bien, aucun Palestinien qui menace la sécurité d'Israël ni d'aucun autre pays. Tout le monde le sait très bien. Donc c'est un motif pour créer des conditions pour le dégoûter de rester là-bas déjà, et puis trouver aussi l'excuse pour pouvoir l'expulser définitivement sans qu'il puisse jamais y revenir.
Il faut que le président Macron s'implique dans ce dossier.
Il faudrait que la diplomatie française, j'imagine qu'elle le fait un peu, mais à un haut niveau, d'abord le protège, s'y implique, intervienne auprès des autorités israéliennes. Mais au point où nous en sommes aujourd'hui, il faut que le président de la République trouve le moyen de dire à la direction israélienne qu'on ne peut pas continuer cet acharnement contre un jeune franco-palestinien qui ne fait que son travail, qui a beaucoup fait d'efforts d'ailleurs pour ses études et pour devenir aujourd'hui un juriste écouté là-bas.
Vous avez le sentiment que rien ne change depuis que Benjamin Netanyahou a été évincé du pouvoir, notamment sur cette question des prisonniers?
Malheureusement, non. Sur les prisonniers, sur la manière dont on assassine les gens. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, un prisonnier qui venait d'être juste libéré a été tué, a été assassiné. On continue à ramasser des enfants, des gens dans les rues, et puis se poursuit cette purification en quelque sorte à Jérusalem, puisque on abat les maisons, on vole les maisons, puis on les abat, on expulse les gens qui n'ont plus de maisons dans des lieux où on ne sait pas si demain continuera de leur appartenir, puisque leur volonté est d'annexer l'ensemble de la Palestine. On est à un moment où évidemment cette question-là est camouflée par hier les guerres en Syrie et en Libye, et aujourd'hui la guerre en Ukraine. Moi, je crois que autant l'annexion de l'Ukraine est totalement inexcusable et inadmissible, mais l'annexion et l'occupation de la Palestine l'est tout autant.
Patrick Lejarik, ancien député européen et éditorialiste à l'Humanité. Il y a 10 ans, Mohamed Merah semait la terreur à Toulouse et à Montauban. Un militaire était tué le 11 mars 2012. Il s'agissait d'Imad Ibn Ziyaten. 2 autres militaires ont été assassinés par la suite, puis 3 enfants et un professeur d'une école juive. Une série d'attentats qui s'était déroulée en pleine élection présidentielle. Une hausse des actes racistes, xénophobes et anti-religieux en 2021. Ces crimes et délits ont augmenté de 13% en 2021 par rapport à 2019. C'est ce qu'affirme le ministère de l'Intérieur. La place Beauvau ajoute que ces données ne représentent qu'une faible partie des faits à caractère raciste, car les victimes sont peu nombreuses à porter plainte. À un mois de l'élection présidentielle, le recteur de la Grande Mosquée de Paris publie un livre intitulé « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République » aux éditions Kéro. Pour Chems Eddine Hafiz, il est nécessaire de rappeler aux candidats que les musulmans sont des citoyens à part entière. On l'écoute.
Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de rappeler à l'ensemble des candidats, à la classe politique, à la société française, que les musulmans sont des citoyens à part entière et qu'ils ont tous les droits, tous les devoirs et bien évidemment toutes les obligations d'un citoyen au sein de la République. J'ai récemment fait une tribune dans le journal Le Monde dans lequel j'ai appelé mes co-religionnaires à faire leurs droits civiques, à aller voter, parce que aujourd'hui le moment est grave. Il y a des abus de langage, des abus de concepts qui sont tenus par des candidats qui aujourd'hui pointent du doigt notre religion et notre communauté musulmane, et que c'est insupportable et qu'il faut aujourd'hui nous réveiller, réagir dans le bon sens des choses, montrer que nous sommes des républicains, nous sommes des citoyens conscients de notre responsabilité et que nous devons absolument nous faire respecter comme étant à part entière, faisant partie de la nation française.
Et vous rappelez que les aumôniers musulmans sont présents notamment dans l'armée, que l'islam est présent dans toute la République.
Non seulement je rappelle ces aumôniers qui, lorsqu'ils chantent la Marseillaise, est-ce qu'on peut aujourd'hui leur dire de s'intégrer à l'intérieur de la société française? C'est une injure, c'est une insulte à la fois à l'intelligence, à tous les efforts qui sont faits par ces hommes et ces femmes de confession musulmane qui veulent absolument être des citoyens à part entière. Et il faut absolument arrêter de les stigmatiser. Je prends de nombreux exemples. Mais en même temps, dans cet ouvrage, j'essaye un tant soit peu d'expliquer ce qu'est notre religion, son histoire, comment elle a été complètement dévoyée par des courants politiques qui ont voulu montrer un caractère hideux de cette religion. Et en même temps, je veux montrer qu'il y a de nombreux musulmans qui sont des pratiquants, souvent peut-être des pratiquants un peu rigoristes, mais qui ne sont pas des dangers, qui ne sont pas contre la société française. Et bien évidemment, mon message, comme je l'ai fait pour mon précédent livre, Le Manifeste, je considère aujourd'hui que les règles de la République et la loi musulmane ne sont pas du tout incompatibles. Bien au contraire, il y a une osmose entre les deux qu'il est nécessaire aujourd'hui de rappeler.
On a l'impression qu'on est monté d'un cran dans la stigmatisation des musulmans, puisque un des candidats dit que le problème c'est l'islam, c'est pas l'islamisme.
Oui, absolument. Mais ce qui est grave, c'est que ce candidat dont vous faites allusion, non seulement certains candidats essayent de lui porter de lui faire concurrence, ce qui est vraiment également insupportable, mais il y a une partie de la société française qui écoute avec attention ce discours. Et c'est là où je dis que nous, musulmans, nous devons absolument, un, être des citoyens exemplaires, mais en même temps, montrer ce qu'est véritablement notre religion, notre adoration en Dieu, qui est une expression tout à fait compatible avec la société française, à l'instar des autres religions monothéistes qui existent depuis très longtemps ici en France. Il n'y a pas de différence, nous sommes des citoyens et nous avons une religion qui est une religion de paix, de fraternité, de solidarité. Et ces dernières années, notamment pendant la pandémie, nous avons montré comment les citoyens de confession musulmane se sont tenus de manière exemplaire dans la solidarité donnée aux autres, comment les plus démunis ont été aidés souvent par des musulmans qui ne tenaient pas compte de la confession, la croyance ou la non-croyance des personnes qui en avaient le plus besoin ils l'ont fait spontanément dans le pays qu'ils aiment, qui est la France.
Chemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il publie un livre intitulé « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République » aux éditions Kéro, un livre que le recteur présentera le mardi 15 mars de 18h30 à 20h30 à la Grande Mosquée de Paris. Enfin, à 3 jours de l'assouplissement des mesures sanitaires, la mise en garde d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, évoque un rebond de l'épidémie de Covid-19. Selon lui, le Covid ne baisse plus, il augmente même. Aussi est-il nécessaire, selon lui, que les personnes fragiles continuent à se protéger. Interrogé sur l'intérêt de proposer une 4e dose de vaccin, Olivier Véran a rappelé avoir saisi la Haute Autorité de Santé. Selon lui, il pourrait paraître cohérent d'ouvrir cette 4e dose aux personnes fragiles. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Eddy Haït, maire de Carrières sous Poissy. Rediffusion de cette émission dimanche 13 mars à 17h. Ce journal est terminé. Merci d'être fidèle à Radio Orient.